Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Willy Kalenga, il est journaliste, directeur général de Géopolis, magazine spécialisé dans les domaines des ressources naturelles. Bonjour monsieur Willy Kalenga.
Bonjour Radio Capi, bonjour cher ami.
Madame Aimé Magnongo, coordonnatrice générale du réseau pour l'autonomisation de la femme, REPAF en sigle, elle est chef d'équipe au cadre des concertations de la société civile de la province du Lualaba. Bonjour Madame Aimé Magnongo.
Bonjour Monsieur Guy Maté, merci.
Et en ligne depuis la ville de Montréal au Canada, Patrick Mbeko, il est écrivain, il est auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits armés en Afrique, il est aussi spécialiste des Grands Lacs. Bonjour Monsieur Patrick Mbeko. Allô, Patrick Mbeko, est-ce que vous êtes là? Voilà, il va nous rejoindre. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de ces derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Willy Kalenga. Il est journaliste et directeur général de Géopolis, magazine spécialisé dans les domaines des ressources naturelles. Madame Aimé Magnongue, elle est coordonnatrice générale du réseau pour l'autonomisation de la femme, REPAF en sigle. Elle est chef d'équipe au cadre des concertations de la société civile de la province du Lualaba. Et en ligne, depuis la ville de Montréal au Canada, Patrick Mbeko, il est écrivain, il est auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits armés en Afrique, il est aussi spécialiste des Grands Lacs. Au menu de cette émission, la CENI a officiellement clôturé dimanche 8 octobre l'opération du dépôt des candidatures à l'élection présidentielle de décembre 2023. Attaque du Hamas contre l'État hébreu le 7 octobre, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a condamné avec fermeté ces attaques qu'il qualifie de terroristes. Et enfin, la problématique du développement de la RDC à partir de l'exploitation des minerais. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire sur la mise en œuvre au sein de la fonction publique de certaines réformes. En effet, devant la presse, mercredi 11 octobre, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a fait l'état actuel de l'administration publique à travers les différentes réformes que le gouvernement Samalo Kondé a initié sous le leadership du président Félix Tshisekedi. Selon le VPM Liaou, ces réformes se traduisent par notamment la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, le rajeunissement, l'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents, la mise honorable à la retraite et la sécurité sociale des agents publics de l'État. Willy Kalenga, le VPM Liaou parle de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, c'est bien tout ça. Mais on se rappelle que récemment, dans un rapport de l'IGF, il a été révélé que près de 150 milliards de francs congolais échappent chaque mois au trésor public dans la paie des agents et des fonctionnaires de l'État. C'est vrai que ce rapport est sorti au mois d'avril, ça fait maintenant 6 mois. Et peut-être qu'entre-temps, les choses ont beaucoup changé. Comment vous analysez l'exposé du VPM Liaou?
Merci beaucoup de me donner la parole. Juste un petit commentaire. C'est vrai que les efforts sont fournis par le gouvernement pour maîtriser les effectifs et augmenter tant soit peu les traitements des agents de la carrière fonction publique. Mais en ce qui me concerne, le mal reste profond. Et le mal, il se situe dans le pouvoir que les différents ministres ont de faire engager les gens à la fonction publique. C'est ça le problème. Donc nous avons une inflation des agents parce que les différents ministres pensent qu'ils peuvent, par des arrêtés, engager les gens à la fonction publique. Tant que les ministres auront ce pouvoir, eh bien, nous aurons malheureusement une inflation des agents et le nombre ne pourra jamais être maîtrisé. Aujourd'hui, dans certains pays, pour accéder à la fonction publique, il faut qu'il y ait une seule et unique entrée. C'est le ministère de la fonction publique qui va recueillir les besoins de chaque ministère en termes d'hommes et en termes de compétences. On va recruter sur base de concours et chaque concours va être bien fait. À ce moment-là, on n'a qu'une seule porte d'entrée à la fonction publique. On peut donc avoir aussi une seule porte de sortie de la fonction publique. Toutes les réformes que l'on fait, chaque ministre qui vient, il a le pouvoir, par son arrêté, de donner des matricules aux gens. Et c'est comme ça que vous avez plusieurs statuts à l'intérieur de la fonction publique. Vous avez des non-payés, vous avez des nouvelles unités. Et toute cette capacité de créativité, malheureusement, vient des cabinets politiques. Et tant que le ministre de la fonction publique ne réussira pas à arracher à ses collègues le pouvoir de nommer directement des gens et de les envoyer à la fonction publique, toute la réforme va tomber dans l'eau. C'est comme quelqu'un qui va puiser de l'eau dans un bassin et qui amène ça à la maison, mais le bassin a un trou. Chaque pas qu'il fait pour amener l'eau à la maison, l'eau va couler par le trou. Et je viens de répéter, je le répète, le trou, c'est le pouvoir des différents ministres par leurs arrêtés d'engager qui membres de famille, qui copains, qui même des compétences, mais qui peuvent faire 10 ans sans être payés par la fonction publique. Voilà ce que je peux dire en liminaire.
Merci, Madame Aimée Magnong. Votre réaction par rapport à cette réforme dont le VPM de la fonction publique a parlé devant la presse le mercredi dernier?
Effectivement, c'est une réforme qui en vaut la peine. Le problème, c'est qu'il faut passer au peigne fin tous les effectifs dans différents services de l'État. Et nous, on pense que c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine, comme on vient de le dire, parce qu'il y a vraiment pléthore des fonctionnaires. Chaque ministre qui entre en fonction vient avec un lot de personnes à engager. Et au fur et à mesure, on accumule. Et quand il y a des départs, il y a des décès, on ne sait pas signaler, ça constitue une catégorie de fonctionnaires fictifs qui sont repris dans la base des données, qui sont payés, mais dont ils ne sont pas bénéficiaires parce qu'ils n'existent pas réellement. Je crois que des contrôles physiques devraient suivre aussi cette action, cette décision, et que ça soit vraiment très très bien suivi, parce que toutes les réformes, comme il a parlé, les rajeunissements du personnel, des fonctionnaires et tout ça, c'est des choses qui en vaut la peine, mais il faut seulement y aller méthodiquement et avec beaucoup plus de responsabilités, dans le sens où, même quand on a la maîtrise de la masse salariale, ça va permettre à ce qu'on paye aussi les agents qui sont en train de partir en retraite. Il faudrait que ces gens-là soient dignement traités, au lieu de rester là à travailler, et en fin de compte, ils sont remerciés comme si ils n'ont pas prêté, comme s'ils n'ont pas été au service de l'État. Moi, je pense que ce sont des très bonnes réformes qui en vaut la peine, mais il faudrait que cela soit bien respecté, bien suivi et bien fait, parce que le constat fait, c'est qu'il y a pléthore du personnel. Il y a des personnels aussi qui sont fictifs et qu'on ne sait pas faire le contrôle, et d'où la difficulté d'avoir la maîtrise de la masse salariale. J'apprécie cette réforme.
Merci beaucoup, Patrick Mbeko. Vous êtes là?
Oui, je suis là.
Ah, ok. Patrick Mbeko, peut-on parler de la mise honorable à la retraite quand certaines statistiques révèlent que près de 70% des agents qui vont à la retraite meurent 2 ans après avoir été mis à la retraite à cause de la précarité? Est-ce qu'on peut parler de la mise honorable à la retraite?
Et moi, je pense que votre question elle est très pertinente. Le problème de fond n'a pas été abordé de mon point de vue. On sait que, comme le disait d'ailleurs un éminent professeur en RDC, que plusieurs mots rangent la fonction publique. Il y a une question de désorganisation, d'inefficacité, il y a le vieillissement du personnel, il y a la corruption, il y a le manque d'équipement, il y a des agents qui font... Donc, tout ce dont on a parlé. dans ces conditions-là, il ne s'agit pas simplement de dire, mais on va faire une réforme, il faut poser les questions de fond. Pourquoi sommes-nous arrivés à ça? Comment peut-on envoyer à la retraite des gens qui ne bénéficieront pas d'une retraite adéquate qui va leur permettre de vivre décemment? Donc, ce sont des questions de fond. Et de mon point de vue, on est encore une fois dans le verbiage, dans des effets d'annonce. Mais au fond, il y a un problème structurel de fond qu'il faut régler, qu'il faudra régler tôt ou tard. Et tant que ces problèmes-là ne seront pas réglés, le reste ne relèvera que du verbiage, tout ça, et, ou alors de simples annonces sans réel effet.
Merci. On prend une petite pause avec Tia, de l'artiste et musicien R.J. Kaniera, et on revient juste après.
Posa kopema, kufakasi. Orji originali gandi didi tuti abra. Kati ya mie nao ni mawingo. Nibi imbeje, nibi semeje, nifuraije. Nibi bambeje, nibi nkunyeje, nibi mwangeje. Neti, ajaya ale taba futa kate Barere na bise ele kebele Ezo pesa kanda mesho ezate Musala makasi membongo ezate
Kasi sisi kila jami Nibebe neri Leta tarifa
de l'artiste et musicien R.J. Kaniera qui, à travers cette chanson, parle des conditions difficiles des fonctionnaires de l'État. On revient à l'actualité de cette semaine. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, a officiellement clôturé dimanche 8 octobre l'opération des dépôts des candidatures à l'élection présidentielle de décembre 2023. Jusqu'à la fermeture du bureau de réception et traitement des candidatures BRTC, à 19h, 24 dossiers ont été effectivement réceptionnés. Parmi ces candidats dans la course à la magistrature suprême, il y a deux anciens premiers ministres, Matata Ponyo et Adolphe Mouzitou. Il y a également trois anciens gouverneurs des provinces, à savoir Tony Bolamba et Jean-Claude de Baende, de l'ex-province de l'Équateur, et Moïse Katumbi, de l'ex-Katanga. Marie-Josée Ifoku, qui était candidate en 2018, figure encore comme l'unique femme sur la liste. D'autres qui retentent leur chance dans la compétition sont notamment Noël Tiani, Seth Kikuni, Radjabo Tebabo, Théodore Ngoï et Martin Fayoulou. Quant aux autres nouvelles figures dans cette joute présidentielle, il y a le docteur Denis Mukwege, Delice Sanga, Franck Diongo, Constant Moutamba, Justin Moudekereza, Georges Boussefalaï, Retz Kazadi, Pasteur Abraham Galassi, et à cela s'ajoute l'homme d'affaires et acteur politique Nkema Lilobokonzi Loli, l'activiste Floribert Anzuluni, l'ex-footballeur Patrice Mwamba et l'entrepreneur André Massalou. Enfin, il y a le président sortant, Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession. Tout cela intervient dans un contexte de la reprise des hostilités entre les Wazalendo et les M23 au Nord Kivu. Willy Kalengai, vous êtes directeur général de Géopolis Magazine spécialisé dans les domaines des ressources naturelles. Vous avez souhaité nous parler de cette actualité sur les candidatures à la présidentielle. On vous écoute.
Merci beaucoup, mais avant vraiment de parler de la candidature à la présidentielle, j'aimerais poser les jalons d'une réflexion qui va m'amener tout droit vers cette question. Je disais que tant que la classe politique congolaise n'aurait pas élaboré un socle puissant et solide, des valeurs communes sur lequel socle sera assis l'État et la nation, chaque cycle électoral sera malheureusement une grande occasion de fragilité nationale. Chaque fois que ceci ne sera pas fait, nous allons assister au déchaînement des passions, à l'instinct de conservation ou de conquête, et tout ceci va bousculer les peu de consensus qui existent. Vous allez voir qu'au-delà de tous les propos tenus d'abord par la CENI, ensuite par les autorités, il existe un doute profond et une incertitude sur l'avenir du pays. Vous remarquerez que depuis le retour à l'unité nationale, après l'accord global et inclusif de Sainte-Cité, chaque cycle électoral produit ses irréductibles. Rappelez-vous qu'en 2006, c'est le CNDP qui avait refusé d'adhérer au cycle électoral et certains officiers se sont cabrés pour venir à Kinshasa. Vous vous rappellerez qu'en 2011, quelques temps après, alors qu'il y avait eu un accord, parce que par rapport au CNDP, il y avait un accord pour pouvoir qu'il rentre dans les processus, le 23 mars 2009, l'accord a été signé. Mais en 2012, le M23, qui est en fait une forme d'enfant du CNDP, est sorti et s'est opposé donc depuis lors à un certain nombre de cycles. Et bien quand nous arrivons en 2022, le même M23 revient. Il revient à la charge et aujourd'hui, nous avons le tableau qui est clair. D'un côté, vous avez le procès électoral qui se déroule à pas de Kinshasa. D'autre côté, vous avez les zones des irréductibles, notamment aujourd'hui le Nord Kivu et l'Outouri, qui sont en réalité en guerre contre tous ces éléments. C'est dans ce contexte que des personnes veulent devenir chef d'État. C'est leur ambition personnelle. Et moi, je suis d'accord que l'on puisse faire ces élections de manière claire et précise. Mais alors, le paradoxe est celui-ci. Nous allons aux élections pour mettre la paix ou nous faisons la paix avant d'aller aux élections? Cette question-là, elle est fondamentale. Parce que si nous faisons la paix avant les élections, donc ça signifie que le 20 décembre sera difficile pour nous d'aller aux élections. Et si nous voulons faire les élections et mettre la paix après, il faudra donc dès aujourd'hui que nous prenions toutes les mesures du danger qui représente justement ces irréductibles. Évidemment, quand vous regardez la liste des candidats, nous avons peut-être pas beaucoup progressé, parce que vous avez quand même des candidats, il nous devra faire la campagne électorale ici. Vous avez des candidats qui ont fait de l'élection présidentielle une activité pour conserver un statut social. Ça signifie, bon, je suis candidat, même si entre les deux élections, il n'a rien fait, il n'a pas de parti, il n'a pratiquement rien fait sur le plan social, mais il estime que comme la Constitution le lui permet, il peut poser sa candidature. C'est une des faiblesses de notre propre loi électorale. Mais que voulez-vous? Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, même s'il peut le faire en se ridiculisant. Moi, je pense que tant que nous n'avons pas un minimum de consensus, ce que j'appelais les socles profonds, il ne faudrait pas que nous allions aux élections sans ce minimum de consensus. Je ne sais pas quelle est la forme que les hommes politiques vont donner à ces consensus. Certains parlent de dialogue, moi je ne parle pas de dialogue. Je parle d'un certain nombre de valeurs sur lesquelles tous nous devons être d'accord. Que quel que soit celui qui va être élu comme président, il faudrait qu'il sache qu'il vit dans un pays fragile. Et cette fragilité tient de la fragilité institutionnelle, de la fragilité des structures, mais aussi surtout du contexte international qui aujourd'hui est récessif par rapport au Congo. Oui, les élections c'est important, mais le pays c'est encore mieux. Voilà ce que je peux dire par rapport à ces élections.
Voilà, vous parlez du consensus, vous avez évoqué un élément important, c'est la paix avant les élections. La paix n'est pas seulement celle, n'est-ce pas, qui peut être causée par la cessation des bruits, des balles. Il y a aussi cette frustration dans la classe politique. Hein. Vous avez évoqué les candidatures. L'opposition, on sent qu'elle continue à critiquer ces processus, qu'elle continue de qualifier des corrompus, des piégés. Mais en dépit de cela, elle s'y engage de manière massive parce que la plupart des candidats sont de l'opposition. Mais on sent que les gens sont en train de s'y engager tout en étant frustrés. Et comment vous comprenez cette stratégie de l'opposition congolaise?
L'opposition n'a pas le choix parce que si vous n'êtes pas dans les élections, comment vous allez encore opérer comme acteur politique après demain? Mais ce que je disais, c'est que vous avez raison de dire que La paix, ce n'est pas simplement la cessation des hostilités, mais la paix, la véritable paix, c'est la confiance que les acteurs se font entre eux. Parce que c'est la confiance qui fonde la liberté. Nous sommes libres d'agir dans un pays parce que nous sommes confiants les uns les autres. Ce qui manque entre les acteurs, c'est cette confiance. Et moi, j'ai parlé que la confiance, ça se construit autour d'un socle, autour des valeurs. Quelles que soient les divergences aujourd'hui, posons la question aux hommes politiques, malgré les suspicions, malgré les divergences idéologiques, malgré les divergences sociologiques, quelles sont les choses sur lesquelles la classe politique est d'accord? Si nous faisons la liste des choses consensuelles sur lesquelles nous sommes d'accord, tous, quel que soit notre avenir, alors, autour de ces choses d'accord, construisons un consensus. Parce que si les tous sont d'accord que nous n'avons qu'un seul pays, et que l'intégrité de notre pays est essentielle, et que la protection de la souveraineté nationale est un des arguments majeurs de l'activité politique, et que l'ensemble des moyens disponibles qu'on mobilise dans le pays doit servir non à des enrichissements personnels, mais on doit servir à l'intérêt général. Si les hommes politiques peuvent être d'accord sur cette petite feuille de route, 5-6 points, alors les élections peuvent se dérouler très bien. La confiance, c'est la rencontre des hommes. Aujourd'hui, moi je pense que, avant qu'on arrive à la Cour constitutionnelle, il est possible que tous les 24 candidats peuvent se rencontrer. Parce que c'est eux qui sont les challengers. C'est eux qui sont les parties prenantes à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui les empêche de se rencontrer? Plutôt que de se rencontrer au travers des colibés dans les réseaux sociaux, en envenimant les climats sociaux, en envenimant les divisions entre la nation. Moi, je pense, je fais un appel. Je sais que c'est théâtral, mais parfois, le théâtre peut nous amener à la vie. Si on peut demander par la CENI que tous les candidats se rencontrent momentanement, on les met 2 heures dans une salle, ce sont tous des candidats, et qu'ils mettent en place un chemin critique pour contenir 2 choses, le climat social, le climat de paix et la compétition équitable. Ils ont le devoir de le faire. Parce que si aujourd'hui vous suivez les réseaux sociaux, vous suivez les prises de position, nous allons bel et bien dans un affrontement qui ne sera pas un affrontement des chevaliers, un affrontement des hommes d'éthique, mais un affrontement des chiffonniers. Nous allons vers la rencontre des chiffonniers, et ça, ce n'est pas bien pour le pays. C'est pour ça que vous m'excusez de prendre ce ton assez fort pour dire, oui, il est possible que nous allions à des élections, même dans les conditions actuelles, si les 24 personnes, je pourrais même dire les 24 vieillards autour du trône, allusion faite à la Bible, se rencontrent même pendant 2 heures, et qu'ils sortent avec une liste des choses sur lesquelles ils sont d'accord. C'est possible. Dans le monde des hommes, ce n'est pas interdit de rêver, et mon rêve ici est un véritable appel.
Merci, Madame Aimée Manyongo. Vous êtes coordonnatrice générale du réseau pour l'autonomisation de la femme, REPAF en sigle. Vous êtes chef d'équipe au cadre des concertations de la société civile de la province de Lualaba. Et s'il faut revenir sur les candidatures, les dossiers réceptionnés officiellement par la CENI, sous les 24 candidatures, il n'y a qu'une seule femme. Elle a été là en 2018, même si elle n'a pas eu assez de voix, et elle est encore là aujourd'hui en 2023. Et comment vous comprenez la détermination de Mme Marie-Josée Ifoku?
Je comprends ça très bien, et je suis vraiment solidaire à cette lutte qu'elle mène pour se positionner en tant que candidate chef de l'État. J'encourage beaucoup Mme Ifoku. Et je la soutiens vraiment parce que nous sommes à l'heure où nous sommes en train de parler de l'égalité des sexes. Nous voulons donner la chance à tout le monde. L'égalité des chances suppose que tout le monde peut compétir parce qu'il se sent capable, parce qu'elle estime qu'elle a les capacités, les moyens de pouvoir postuler. Elle porte en elle le besoin du changement dans son pays. Elle veut se rendre utile. Elle veut offrir son expertise au changement, au développement de notre pays. Et donc, ce n'est pas exclu par le fait qu'elle soit femme, qu'elle n'en a pas les atouts ou qu'elle ne peut pas. D'ailleurs, la Constitution lui donne ce droit de postuler comme une citoyenne congolaise. Alors, moi, je pense qu'elle est déterminée. Elle est déterminée parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Elle est pour nous, femmes, le symbole de la lutte pour l'égalité du genre, parce que nous voulons que la voix de la femme soit entendue. Nous avons vu depuis l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, à son indépendance politique, économique et tout ce que vous voulez, il n'y a que les hommes qui se sont succédés. Et il y a très peu de femmes qui accèdent, qui arrivent à percer ces milieux-là pour se positionner comme candidate chef de l'État. Et moi, je pense que on a besoin du changement. On a besoin de cette alternance au sommet de l'État. L'alternance, c'est pas seulement d'un président homme à un autre, mais ça peut aussi passer de la main des hommes vers la main des femmes pour essayer aussi de voir ce que la femme est capable de donner pour le développement de son pays. Donc la candidature de Madame Ifoku, elle est très soutenue. Je ne dis pas que je désapprouve les candidats des hommes, mais moi je me dis, on devrait vraiment être solidaire avec cette femme, avec cette candidate, pour pouvoir essayer quelque chose de nouveau, voir ce que ça peut nous donner. On a salué l'alternance au sommet de l'État en 2018. On a vu ce que cela a produit. Si on peut encore donner la chance à une femme, je crois que nous serons bien partis sur notre chemin vers la démocratie.
Merci, Monsieur Patrick Mbeko. Vous êtes écrivain et auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits armés en Afrique. Vous êtes aussi spécialiste des Grands Lacs. À part cette unique femme, n'est-ce pas, qui semble attirer l'attention, il y a aussi d'autres candidats qui semblent susciter beaucoup de questionnements compte tenu du fait qu'ils soient novices en politique. C'est le cas notamment du docteur Denis Mukwege. Est-ce que Mukwege peut surprendre à l'issue de cette élection, Patrick Mbeko?
Moi, je pense qu'il peut surprendre, rien n'est impossible. Souvent, on parle des élections de RDC, mais très peu de gens au Congo, même à l'étranger, ont pris le temps de faire une analyse sociologique du vote en RDC depuis 2006. Quand vous analysez le comportement des Congolais aux urnes à la présidentielle, vous vous rendez compte qu'ils ont toujours voté de manière stratégique. En 2006, il y avait dans la tête, dans la psychologie des Congolais, il y avait d'un côté celui qui était présenté comme le fils du pays, et de l'autre, celui qui était présenté comme le candidat de l'étranger. C'était la même dynamique en 2011, et en 2018, c'était tout sauf Kabila. Les gens n'ont pas voté pour celui qui était... En fait, on dit que c'est Fayulu qui a gagné, d'après ce qui se raconte, mais les gens n'ont pas voté nécessairement pour Fayulu, ils ont voté contre Kabila. Et je crois qu'en 2023, nous allons assister en fait à un scénario assez similaire dans la mesure où les gens vont voter en fonction de la réalité sociopolitique et économique dans laquelle se trouve le pays et non de la tête d'un candidat. Et si un homme comme Mukwege incarne aux yeux d'un certain nombre de Congolais l'alternative à ce que nous vivons au sein de la classe politique congolaise depuis quelques années, ben c'est lui que les gens vont voter. Et ce ne sera pas une affaire de novice ou une affaire d'être connu ou pas. La montée en puissance de Fayulu en 2018 avait surtout plus d'un. Ben, moi, ça ne m'avait pas surpris. J'avais même écrit un texte à l'époque intitulé « Pourquoi Fayulu a toutes les chances de gagner les élections ?» Pour la raison très simple, comme je l'ai dit, les Congolais votent très stratégiquement, contrairement à ce que l'on peut penser. Et un homme comme Denis Mukwege pourrait surprendre aussi.
Oui, vous avez suivi Willy Karengaï qui a relevé le fait que tout cela se passe dans un contexte de guerre. Et on sait que parmi les contraintes évoquées par la CENI, il y a cette insécurité. Et les combats qui ont repris au nord Kivu entre les Ouazalendo et les M23, à votre avis, sont-ils susceptibles d'impacter ces élections?
C'est sûr et certain, mais je tiens à rappeler aussi que la dernière élection, celle de 2018, s'est déroulée sans 600 000 Congolais qui ont été exclus du vote et qui n'ont jamais voté. C'est quand même important de le rappeler. Et donc, l'instabilité, sûre et certaine, va causer des troubles à l'organisation des élections dans les régions où cette instabilité perdure. Ça, c'est une évidence. Maintenant, il y a aussi, dans le chef, et j'avais suivi M. Kalingaï dans son explication, il n'a pas tort, mais il faut quand même poser les questions qui fâchent. Au fond, le problème de la confiance entre les hommes politiques congolais, ou même de la crise à laquelle nous assistons, ce n'est pas tombé du ciel, si vous voulez. Il y a quand même une irresponsabilité de la classe politique et des hommes politiques congolais dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Si vous analysez l'histoire des élections en RDC, du processus électoral qui découle de la signature des accords de paix de 2003, vous allez vous apercevoir que ce processus électoral n'avait jamais été mis en place pour ramener la paix en RDC. Le processus électoral qui découle de la signature des accords de paix avait été impulsé pour légitimer un système qui avait été cautionné par l'Occident en 2006 et qui était incarné par M. Joseph Kabila. Il faut regarder les archives européennes et occidentales pour s'en apercevoir. Par la suite, les politiciens congolais ont joué leur partition. Et je tiens à rappeler aujourd'hui que s'il y a une crise de confiance entre les hommes politiques congolais, et c'est parce qu'ils ont pris l'habitude de ruser avec les principes et les valeurs. En 2018, on sait tous ce qui s'est passé. Mais on a accepté de jouer le jeu parce qu'on ne voulait plus voir la tête de Kabila. en espérant que cela allait ramener la stabilité dans le pays, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, nous sommes aujourd'hui confrontés à une situation de crise qui découle de l'irresponsabilité des hommes politiques congolais qui ont pris l'habitude de privilégier avant tout leurs propres intérêts et avec eux leurs partisans. Et c'est le mal qui ronge aujourd'hui le Congo, malheureusement. Et ces élections, je suis d'accord avec M. Kalenga quand il dit qu'on va vers l'affrontement. Évidemment, pour beaucoup de protagonistes, les élections ne sont pas en fait un processus qui va permettre de choisir simplement un candidat. C'est aussi un processus qui va permettre de régler les comptes sur le terrain politique, quitte à mener le combat dans la rue ou sur un autre terrain. Il y aura véritablement un règlement de compte politique, et même militaire ou même au niveau de la rue, et les gens vont se servir des élections pour arriver à leur fin. Et on peut craindre en fait pour la stabilité du pays.
Merci, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale, comme vous le savez. Le jeudi 12 octobre, c'était le 34e anniversaire de la mort de Franco Luambo Makiadi. Pour lui rendre hommage, nous allons écouter l'un de ses classiques, La vérité de Franco, et on revient juste après.
La boinde ko samba e pa ya bazuzu Ponga na lingaka yo mingyo Yo moko oyebi poninyo La boinde bayeba La boinde bayeba La boinde bayeba e pa ina bino Poyo lingaka ngai mingyo Bakoyeba mobali yango Nalinginde bendifa Nalinginde bendifa Epaina ngabandeko Ponga na tekisaka yo mingyo Noki bakoyeba la Telefone teo no kibakuyeba Ponga na bimaka de mingyo No kinakutu na gaina telobi
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre à quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de cette magazine, nous avons fait un commentaire sur la mise en œuvre au sein de la fonction publique de certaines réformes. Nous avons également analysé les différentes candidatures à la présidentielle de décembre 2023. participe à cette émission. Willy Kalenga, il est journaliste et directeur général de Géopolis, magazine spécialisé dans les domaines des ressources naturelles. Madame Aimée Magnong, coordonnatrice générale du réseau pour l'autonomisation de la femme, Repas Francigle, les chefs d'équipe au cadre des concertations de la société civile de la province du Lualaba. Et en ligne depuis la ville de Montréal au Canada, Patrick Mbeko, il est écrivain, il est auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits armés en Afrique et il est aussi spécialiste des Grands Lacs. Attaque du Hamas contre l'État d'Israël le 7 octobre, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a condamné avec fermeté ces attaques qu'il a qualifiées de terroristes et a exprimé sa solidarité au peuple d'Israël. Il a aussi réaffirmé l'engagement de la RDC et d'Israël à lutter ensemble contre le terrorisme sous toutes ses formes. Cette déclaration intervient dans un contexte caractérisé par l'annonce jeudi 21 septembre dernier faite à New York selon laquelle l'ambassade de la RDC en Israël serait bientôt transféré de Tel Aviv à Jérusalem. Cette annonce a été faite par le président de la RDC, Félix Tshisekedi, au premier ministre Benjamin Netanyahou, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. En contrepartie, Israël ouvrira une ambassade à Kinshasa. Pour rappel, l'ambassade d'Israël à Kinshasa avait été fermée en 2003 en raison de la guerre dans les pays. Patrick Mbeko, vous avez opté pour le sujet relatif à l'annonce par le président Félix Tshisekedi de transférer de Tel Aviv à Jérusalem l'ambassade de la RDC en Israël. On vous écoute.
Bah écoutez, d'abord par rapport à la position de la RDC, je crois que le Congo est un pays extrêmement important et des dirigeants de ce pays-là doivent être conscients de la place qu'occupe ce pays sur la scène internationale avant de prendre position dans des conflits, dans des enjeux qui le dépassent. La question israélo-palestinienne est très sensible à travers le monde, on le sait. Et la position de la RDC de s'aligner de manière inconditionnelle sur les positions d'Israël pourrait nous causer des problèmes dans la mesure où, et faut-il le rappeler, il y a une position au niveau de l'Union africaine, une position de neutralité de l'Union africaine par rapport à cette question-là, bien que la plupart des États sur le continent entretiennent des relations pour le moins privilégiées avec l'État d'Israël. Et vous aurez d'ailleurs constaté que depuis le début de l'offensive de Hamas, plusieurs pays, y compris les alliés traditionnels d'Israël sur le continent africain, ont adopté une position attentiste. Observez la position de l'Ouganda ou surtout d'un pays comme le Rwanda, qui est un très grand allié d'Israël sur le continent africain, vous allez vous apercevoir que ce sont des pays qui ont adopté une position attentiste. Donc on ne comprend pas pourquoi la RDC s'aligne de manière inconditionnelle et sans aucune distance sur les positions d'Israël dans ce conflit-là, quitte à placer la RDC en porte-à-faux à l'égard non seulement de la position de l'Union africaine, mais aussi des pays arabo-musulmans d'Afrique du Nord, mais aussi de d'autres potentiels alliés à travers le monde, y compris au Proche et au Moyen-Orient. Par rapport à la question de l'ambassade, elle s'inscrit dans la droite ligne de ce que je viens de dire. Il faut rappeler d'abord que la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël a été faite par Donald Trump dans les conditions que le monde entier sait. Même les Nations Unies ont critiqué cette position-là. À ce jour, il y a, je crois, 3 ou 4 pays qui ont reconnu Jérusalem comme capitale de l'État hébreu, quitte à installer des représentations diplomatiques là-bas. Pourquoi la RDC s'empresse-t-elle de s'aligner sur des positions qui ne vont pas nécessairement aller dans le sens de nos intérêts à moyen et à long terme? Je dis à moyen et à long terme parce que demain, il y aura un changement de gouvernement Israël. Qu'est-ce qui va se passer? Sans compter le fait qu'aux États-Unis, même la position de Trump avait été largement discutée. Et il faut en même temps rappeler le fait que, et je me demande pourquoi à Kinshasa, personne n'a expliqué que le statut particulier de Jérusalem a été reconnu par les résolutions 252 de 1968, la résolution 476 de 80, la résolution 478 de 1980 aussi, du Conseil de sécurité de l'ONU, et aussi la résolution 181 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui toutes reconnaissent le statut particulier de Jérusalem. Et on attend que la question de Jérusalem soit réglée dans le cadre des négociations de paix de manière globale sur la question israélo-palestinienne. Donc, de mon point de vue, la RDC n'a pas à s'aligner de manière aveugle sur les positions d'Israël. On peut être allié sans nécessairement adopter des positions qui pourraient nous être préjudiciables à l'avenir, surtout sur le plan diplomatique. Et quand on sait surtout qu'on est dans un monde en pleine mutation, avec la montée en puissance de ce qu'on appelle les puissances émergentes, et la reconfiguration du monde aujourd'hui, avec la naissance des pôles qui inaugure aujourd'hui d'ailleurs la multipolarité du monde dans lequel nous sommes. Donc en tant que RDC, en tant que pays important, en tant que pays stratégique, les dirigeants du pays doivent avoir une lecture lucide et claire de l'environnement international dans lequel le pays évolue, afin de prendre des positions éclairées quant aux intérêts de la RDC. De mon point de vue, les positions de M. Félix Tshisekedi ne sont pas bonnes pour l'image de la RDC, tant sur la scène régionale que continentale et internationale.
Justement, on se rappelle, hein, vous l'avez même évoqué, hein, la position de l'Union africaine, c'est celle de la coexistence des deux États, l'État d'Israël et l'autorité palestinienne qui, à la longue, devra, n'est-ce pas, avoir le statut d'un État. Et l'Union africaine ne reconnaît pas la ville de Jérusalem comme la capitale de l'État hébreu. Et elle a un statut particulier, vous l'avez aussi rappelé. Mais la RDC, à travers son président, prend une position qui semble, n'est-ce pas, se placer aux antipodes de celle de l'Union africaine. Patrick Mbeko, ça peut être quoi les enjeux derrière une telle position?
Mais c'est parce que la position de la RDC remonte déjà à 2020, à l'époque où Félix Tshisekedi s'était rendu devant l'AIPAC, hein, le puissant lobby juif américain. Et à ce moment-là, il avait annoncé la volonté de la RDC d'ouvrir une représentation commerciale à Jérusalem. Déjà à ce moment-là, la position de la RDC avait soulevé beaucoup de questions parce que Félix Tshisekedi était à l'époque, je pense qu'il présidait l'Union africaine à l'époque. Et ça avait été très très mal vu, si ma mémoire ne me fait défaut, mais ça avait été très mal vu à l'époque. Et donc, je pense que du côté congolais, on est dans le court-termisme et il y a aussi une dimension, je dirais, un peu religieuse. Parce que le Congo est un pays où il y a beaucoup de groupes de prière et des gens associent l'État d'Israël actuel qui est créé en 1948 à l'État d'Israël biblique et donc ils font des amalgames comme ça et adoptent des postures politiques en fonction de cette réalité, de cette compréhension de l'histoire qui reste de toute façon problématique. De mon point de vue, c'est vraiment un positionnement court-termiste qui n'a pas de visibilité, de lisibilité pour quelqu'un qui comprend les enjeux dans cette région-là. Pourquoi je le dis? Parce que vous aurez remarqué que des pays comme le Rwanda, qui sont très proches d'Israël, beaucoup plus proches que la RDC, n'ont pas fait le pas, n'ont pas franchi le pas. Des pays comme l'Ouganda n'ont pas franchi le pas. Des pays comme le Maroc n'ont pas franchi le pas. Des pays comme la Côte d'Ivoire n'ont pas franchi le pas. Or, ce sont des pays qui entretiennent des relations pour le moins privilégiées avec l'État d'Israël. Donc, du côté congolais, je pense qu'il faut mettre cela sur le compte d'un manque de compréhension d'abord des enjeux géopolitiques mondiaux. Et puis, à cela s'ajoute la question religieuse que j'ai soulevé précédemment.
Merci Willy Kalengai. Vous, comment vous voyez les enjeux de cette prise de position de la RDC à travers son président?
J'ai suivi M. Mbeko et je pense quand même qu'il y a un petit bémol à mettre en jeu. Je ne pense pas que ce soit un manque de clairvoyance. Je pense que le Congo, comme on l'a dit, c'est un pays stratégique, un pays qui prend des positions souvent souveraines. N'oubliez pas que le maréchal Mobutu, à l'époque, avait rompu les relations diplomatiques avec Israël, à l'époque, en 1973, n'oubliez pas, et il disait entre un frère et un ami, le choix est clair. Il existe donc dans ce pays une certaine tradition de souveraineté dans la discussion. Mais je pense que c'est un alignement par rapport à un autre accord qui est plus puissant et plus fort. Arrivé au pouvoir, n'oubliez pas que le président Tshisekedi avait le premier signé, ce qu'on appelle un accord stratégique avec les États-Unis. C'est d'abord ça. Il existe un accord entre le Congo, un pacte stratégique entre le Congo et les États-Unis. Dans ce pacte stratégique, il est convenu que sur les grandes questions de l'opinion internationale, le Congo et les États-Unis devront partager ensemble les mêmes lectures. Alors, regardez comment les Américains, malgré qu'ils sont souvent négociateurs, comment ils ont agi par rapport à la crise en Israël. Les Américains sont allés directement à Jérusalem et ils ont dit « Nous sommes avec Israël ». Il y a donc des rapports de nécessité. C'est vrai que la neutralité observée pendant très longtemps par l'Union africaine a été aussi la cause de la persistance de cette crise. En voulant ménager les deux peuples, en ne voulant déplaire à personne, on a laissé ces peuples-là se rentrer dedans et se faire du mal jusque hier, jusqu'aujourd'hui, jusque ce matin. Je ne peux pas expliquer les positions du président, mais je peux considérer, je peux comprendre. Et le fait des religieux n'est pas à négliger. Parce qu'un peuple se construit aussi sur son imaginaire collectif. et 80% des Congolais sont des chrétiens. Et les chrétiens réalisent leur pèlerinage spirituel à Jérusalem. Moi, je me dis que c'est peut-être aller vite en besogne que de croire qu'il n'y a pas une certaine intelligence stratégique. Il y a un véritable lien entre la position du président aujourd'hui par rapport à Israël et la position du président par rapport aux États-Unis, qui sont en réalité ce que je peux appeler ici le guide stratégique pour les questions internationales par rapport au Congo. C'est ça le sens du pacte stratégique signé entre les deux nations. Alors bon, maintenant, quel pourrait être l'impact de cela? Vous savez, le Congo peut se permettre d'avoir une position aussi ambiguë, parce qu'en réalité, ce n'est pas pour ces positions ambiguës qu'on viendra négocier ou pas. Les autres qui font les affaires avec le Congo, qui viennent des pays ennemis à Israël, ne vont pas partir du Congo parce qu'Israël est ici. La loi du business va triompher, ils seront là. Mais simplement, je me dis, je reconnais quand même une certaine identité, le personnage, le président de la République, par rapport à ses propres convictions personnelles. En tant que président, il a le droit d'impacter son pays pendant qu'il est au pouvoir, de ce qu'il pense être bien pour ce pays. S'il pense que nous devons être bien avec Israël, dans ce contexte, ne minimisons pas son intelligence politique.
Merci, Madame Aimée Manyongo. Oui, vous avez encore des choses à ajouter, Monsieur Willy Galengaï?
Non, je crois que j'ai découvert Monsieur Mpeko, dont l'intelligence m'a agréablement surpris. Je crois que je vais lire ses livres et je passerai par vous pour avoir ses coordonnées.
Merci beaucoup, Madame Aimée Manyongo. Votre point de vue par rapport à cette question des relations entre l'État d'Israël et les pays africains, notamment la RDC?
Merci beaucoup, Monsieur Maté. Moi, j'estime que la RDC, c'est un pays souverain. Et vu sa position géostratégique au niveau de l'Afrique, elle a un rôle très important à jouer, non seulement dans le concert des nations au niveau de l'Afrique, même au niveau du monde entier sur la scène internationale. Mais la RDC devrait aussi avoir son histoire avec chacun des États avec lesquels ils interagissent ou elle interagit. Parce que on ne doit pas seulement s'aligner par influence, on ne peut pas prendre des décisions extrêmes, faire par exemple une sorte de sentimentalisme dans la gestion des relations avec les États. On doit voir où sont les intérêts de la RDC. Aujourd'hui et demain, il y a des accords qui ont été signés, qui ont été vraiment applaudis dans le temps, mais à la longue, cela s'est retourné contre la paix et la sécurité de la RDC. Et moi, j'imagine que les gouvernants congolais devraient beaucoup plus jouer à la prudence, à la réserve sur certaines situations, surtout quand c'est dans une période de trouble où on ne sait pas exactement ce qui est en train de se passer entre un État X et un État Y. Et là, il faudrait peut-être regarder la relation directe qu'on a avec cet État et les avantages qu'on pourrait y tirer. Parce qu'on dit dans les relations entre États, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'amitié, ce sont les intérêts. Et on ne doit pas prendre tous les accords par populisme ou par sentiment, mais on doit beaucoup plus analyser les conséquences de cet accord-là. Et chaque pays devrait aussi se référer à son histoire. La RDC, ce n'est pas un pays récent qui est né de la dernière pluie, c'est un pays qui est indépendant depuis 1960, 60 ans de maturité, je peux le dire. Donc, nous avons une histoire avec chacun des États du monde. Par notre position, nous pouvons avoir des rapports avec d'autres États parce que nous les sollicitons, mais il y a d'autres qui viendront nécessairement vers nous. C'est à nous de définir les types de relations et les types d'alliances que nous pouvons faire avec un État ou un groupe d'États. Et donc, certaines décisions, par exemple le transfert de l'ambassade de la RDC vers Tel Aviv, je pense que le chef de l'État dans sa
diplomatie...
De Tel Aviv à Jérusalem, excusez-moi, et dans sa diplomatie qu'il est en train de mener, nous sommes à la veille des élections, on a besoin des alliés, je crois qu'il a des raisons valables pour le faire, mais moi je pense que la RDC devrait aussi avoir son propre carnet d'adresses et sa propre stratégie d'approche pour les différentes alliances à faire avec les différents États et prendre des décisions vraiment à tête froide plutôt que d'agir à chaud dans des situations troubles comme la période que nous connaissons maintenant avec la guerre en Israël et en Ukraine.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Jérusalem d'Alpha Blondie et on revient juste après.
Baruch atah Adonai.
Baruch atah Adonai.
Baruch abba Yerushalayim.
Baruch
atah Adonai. Baruch Abba Yerushalayim.
Baruch Yerushalayim.
C'était Jérusalem d'Alpha Blondie. On revient à l'actualité de la semaine. Je rappelle que nous avons dans cette émission Willy Kalenga, il est journaliste et directeur général de Géopolis, un magazine spécialisé dans les domaines des ressources naturelles. Madame Aimé Magnon, coordonnatrice générale du réseau pour l'autonomisation de la femme Repaf en sigle, et les chefs d'équipe au cadre des concertations de la société civile de la province du Lualaba. Et en ligne depuis la ville de Montréal au Canada, Patrick Mbeko, il est écrivain, il est auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits armés en Afrique, il est aussi spécialiste des Grands Lacs. La ville de Kolwezi dans la province du Lualaba a abrité du 30 septembre au 4 octobre 2023 la 7e édition du Salon pour le développement des villes Expo Béton 2023. Ce forum a réuni pendant près d'une semaine des participants venus de plusieurs coins du pays et d'ailleurs pour réfléchir sur le développement urbain et des infrastructures liées au transport multimodal, à l'habitat, à l'approvisionnement en énergie et autres. D'un forum économique à un autre, après la tenue dans la même ville de Kolwezi de la 7e édition de Expo Béton, les opérateurs miniers du Lualaba ont donc pris rendez-vous à la première édition du Salon minier du Lualaba autour du thème évocateur « Exploitation responsable des ressources minières, défis et opportunités pour le développement économique et social de la RDC ». Madame Aimé Magnon, c'est un sujet que vous avez, n'est-ce pas, proposé. On vous écoute.
Merci beaucoup, Monsieur Maté. La ville de Kolwezi a été vraiment très sollicitée ces derniers temps avec les deux grandes activités que vous avez mentionnées, l'Expo Béton RDC et le Salon minier du Lualaba, la première édition. Et tout cela, il y a eu également l'inauguration du centre de négoces de Moussompo, parce que quand on parle Lualaba, on parle mines. Et quand on parle mines, on ne parle qu'industriel, on parle également du secteur minier, artisanal, et c'est le sens même de l'existence du centre de négoces de Moussompo. Alors, Expo Béton, c'est un salon de développement des villes en RDC. La thématique qui a été retenue cette année, c'est celle-là. Donc, on a essayé de réfléchir avec plusieurs orateurs. Il y a eu des ministres, il y a eu le vice-premier ministre, M. Vital Kamere, il y a eu beaucoup d'autorités qui se sont succédées à la tribune pour parler. Et dans plusieurs exposés qu'ils ont faits, ils ont décliné les différents axes sur lesquels l'État et le gouvernement provincial devraient agir pour parvenir à dégager des résultats plus ou moins durables. Parce que lorsqu'on parle de la ville ou de la province du Lualaba, à travers ces grandes activités, moi j'étais en train de faire une autre lecture par rapport à tout ce qui était en train de se faire, parce que les entreprises minières sont en train de travailler pour développer les secteurs économiques. Et les retombées de ce développement, c'est le bien-être de la population. Et la population doit se retrouver dans tout ce qu'ils sont en train d'organiser comme activité, dans l'accès à l'emploi d'abord, et ensuite il y a aussi la création de l'emploi par la sous-traitance et la création des chaînes de valeur au niveau local. Et nous sommes en train de comprendre que la ville ou la province de Kolwezi, la province du Lualaba, excusez-moi, on parlait du Eldorado, du corridor sud de la RDC. Et donc, nous sommes focalisés non seulement sur les mines, mais regarder les enjeux auxquels font face les différentes entités ou les différents secteurs de la RDC ou même la RDC elle-même dans son ensemble. Nous avons, au niveau interne, nous avons un besoin de la stabilité du cadre macroéconomique qui devrait nous provenir de toutes les activités minières qui sont en train d'être menées. Les différents échanges qu'il y a eu au sein de ces deux grandes activités ont tourné autour des possibilités de pouvoir générer beaucoup plus de revenus, payer un environnement qui soit vivable, qui soit acceptable, un environnement de développement, non seulement pour le minier qui doivent se trouver des ressources énergétiques pour leur production, mais voir également les retombées sociales des communautés riveraines. Ça, c'est au niveau local. Mais au niveau continental, au niveau de l'Afrique, moi, je regardais l'impact que pourraient jouer les secteurs miniers, les entreprises minières, dans le cadre de leur RSE, quel rôle ils pouvaient jouer pour impulser le rôle de la RDC dans la VLECAF. Parce que nous savons que la province du Lualaba est une province essentiellement minière. Mais il y a les efforts du gouvernement provincial qui veut bousculer vers la diversification de l'économie. On a vu depuis des années, depuis l'avènement de la province du Lualaba comme province, les efforts qui sont menés au niveau de la province pour placer la province à un niveau où elle soit à mesure de susciter de marché l'accès de la population aux services des bases, et tout cela devrait être impulsé par les secteurs miniers. Et je voulais voir toute cette organisation de toutes ces activités, que cela se concentre sur les trois défis majeurs auxquels font face la RDC pendant ce moment. Donc la maîtrise du cadre macroéconomique en interne et voir au niveau continental comment les miniers peuvent contribuer avec leurs activités, leurs partenariats avec le gouvernement, comment ils peuvent contribuer à accompagner le gouvernement pour faire face à l'appel de la VLECAF au niveau de la province du Lualaba. Et troisièmement, il y a la question de la transition énergétique. Comment ils peuvent mettre ensemble tous ces moyens et tous ces partenariats pour faire de sorte que cette énergie qu'ils peuvent créer puisse bénéficier non seulement au service des exploitants miniers industriels, mais que cela puisse avoir aussi des retombées au niveau de la communauté.
Merci, Willy Kalengai. Willy Kalengai, quand on parle de la croissance économique en RDC, c'est souvent à partir de l'exploitation de ces minerais. Mais pourquoi, à votre avis, ce boom minier que la RDC connaît depuis plusieurs années n'a jamais amélioré les sociales de la population congolaise? C'est à la suite de la mauvaise gouvernance ou c'est dû à la nature des contrats que la RDC conclut avec ses partenaires dans ces secteurs?
Rien de tout ça, Monsieur Maté. La RDC aujourd'hui a atteint 2 millions de tonnes de cuivre. C'est un record, parce que les records anciennement détenus par la GECAMIN étaient de 450 000 tonnes, et vous vous rappelez à quelle année, en 1989. L'année passée, nous avons dépassé les 2 millions. Aujourd'hui, la RDC est en train d'arriver à la deuxième, troisième place dans la production du cuivre et première place dans la production du cobalt dans le monde. Donc, en ce qui concerne l'opération industrielle, l'exploitation et l'exportation, la RDC gagne, en tout cas fait gagner des milliards à des opérateurs. La question reste, pourquoi est-ce que ceci ne parvient pas à développer la population? Parce que justement, c'est une activité non inclusive. Il manque deux pans entiers, sur lesquels le gouvernement n'a pas encore totalement pris de décision. La première chose, c'est que les retombées minières dans les populations environnantes, c'est simplement la redevance minière. Et elle est donnée à qui? Elle est donnée aux entités territoriales décentralisées. C'est à peine quelque chose pour pouvoir rester en vie. Mais ce qui est important, ce qui fait développer une nation, quand on a une économie primaire comme l'exploitation des minéraux, c'est la poursuite des investissements par rapport à ce qui a été tiré des minéraux. Je voudrais donner l'exemple de la colonie belge, notamment nous. Vous savez que la colonie belge travaillait à l'époque avec la province de l'Équateur pour produire de l'EVA. Parce qu'on avait besoin de l'EVA pour produire le caoutchouc, c'était la révolution automobile. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Quand l'argent de l'EVA était revenu au Congo, cet argent n'est pas resté seulement dans le cadre de l'EVA. Cet argent a servi à aller vers le Katanga pour aller ouvrir des mines. Quand vous comprenez cet exemple, vous voulez comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, la loi oblige les miniers à rapatrier 60% de leurs avoirs dans les banques congolaises. Cet argent revient au Congo. Mais cet argent chôme au Congo. Il est important que l'argent qui vient des mines aille dans d'autres secteurs pour pouvoir développer. C'est ce qui s'est passé avec la Gécamine à l'époque. Quand la Gécamine faisait des bénéfices, elle faisait d'autres opérations. Elle construisait des écoles. Ce n'était pas le social, parce que ces écoles-là étaient payantes. Elle construisait d'autres business. Il faut investir. Investir et investir. Mais malheureusement, aujourd'hui, les débats entre les miniers et le gouvernement chopent à ce niveau-là. Les miniers disent que nous ne sommes que des miniers, nous ne pouvons pas aller faire autre chose. Mais on dit, mais l'argent que vous avez rapatrié, il sert à quoi? Il chôme. Cet argent chôme dans des banques qui ne sont pas des banques congolaises. Vous comprenez? Ça signifie en réalité, cet argent pouvait être utilisé par les miniers, ils peuvent créer d'autres sociétés. Qu'est-ce qui empêche une compagnie minière de créer une compagnie agricole? Qu'est-ce qui empêche une compagnie minière de créer, avec l'argent des mines, une compagnie, par exemple, de fabrication des pièces de rechange? C'est cet ensemble d'investissements qui va absorber le chômage, qui va donner de l'emploi. Je pense que les mines peuvent aider, mais elles ne peuvent aider que si l'argent sorti des mines, qui est une économie primaire, est utilisé dans l'économie secondaire et tertiaire.
Merci Patrick Meko, nous allons finir avec vous cette émission. Quelle est votre perception sur la problématique de l'exploitation des minéraux en RDC?
Ben moi je pense que la question de fond, tout ce qui a été dit renvoie de mon point de vue à deux mots. La gouvernance, qui est l'ensemble des règles et des processus collectifs formalisés ou non par lesquels le pouvoir public participe à la décision, à la mise en œuvre des actions publiques, et la vision autour de laquelle s'articulent en fait toutes les politiques que l'on peut mettre en place, pas seulement dans la question des mines, mais sur d'autres questions aussi. Moi, je vis dans un pays, le Canada, qui est une très grande puissance minière et qui a beaucoup de ressources. Il y a une vision au sommet de l'État autour de laquelle se sont articulées des politiques qui permettent aujourd'hui au Canada de tirer avantage de ses ressources naturelles. Le problème chez nous, c'est qu'il n'y a pas de vision. Et là, il y a un problème de gouvernance sérieux. Parce que tout ce que M. Kalenga a dit nous renvoie à quoi? Il n'appartient pas aux miniers de décider de ce qui doit être fait ou pas en RDC. C'est au gouvernement, au pouvoir public de décider, en fonction des accords qu'on a signés, de ce à quoi on s'attend dans l'articulation des projets au pays. Nous faisons beaucoup l'erreur dans les pays africains, surtout en Afrique subsaharienne francophone, de nous limiter aux chiffres, de dire que nous avons des croissances économiques, nous exportons autant de millions de tonnes de minerais et tout ça. Mais au final, moi j'ai un regard très anglo-saxon. La question que j'en pose c'est, mais la finalité de tout ça c'est quoi? Tout ce que vous dites. Parce que si tout ça ne rime à rien, il ne sert à rien d'en parler. Il est temps, moi je pense, du côté congolais, ou même du côté africain de manière générale, d'avoir une certaine vision autour de laquelle nous allons articuler des projets et des stratégies pour atteindre des objectifs donnés. Et c'est le cas de la RDC aujourd'hui, parce que l'impression qu'on a aujourd'hui, on exporte davantage de minerais aujourd'hui, mais quand on compare à l'époque de la Gécamine du temps de la Deuxième République, beaucoup de gens disent, ben, à l'époque, l'argent qui rentrait servait à quelque chose par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'investissement, ce n'est pas à une compagnie minière qu'on va demander d'investir quelque part. Ça va dépendre toujours du pouvoir public. Et on le voit. Moi, je peux vous dire qu'au Canada, on a des gros problèmes avec les compagnies minières. Il n'en demeure pas moins que des décisions sont prises. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des discussions. Il y a eu des vastes consultations entre les ministères fédéraux, les ministères de mines des provinces et des territoires, l'industrie extractive, des groupes environnementaux, les syndicats, les collectivités autochtones, tout ça. Au regard de ces consultations-là, on a décidé d'impulser une certaine vision autour de laquelle se sont greffés des projets qui doivent rencontrer le besoin non seulement du pays, mais aussi des collectivités, des populations, et j'en passe. Et donc, au Congo, c'est ça qui fait défaut. Si vous posez la question de savoir aujourd'hui quelle est la vision de l'État congolais en ce qui concerne les mines, où allons-nous avec l'exportation des ressources minières ? Nous n'en avons pas. Mais je peux vous donner un exemple très simple. Regardez ce qui est en train de se passer en Russie avec la guerre en Ukraine. Les Occidentaux avaient misé sur l'effondrement de l'économie russe. Parce qu'ils avaient dit, nous n'allons plus acheter le pétrole russe, on ne va plus acheter le gaz russe. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, aujourd'hui, au moment où je vous parle, le FMI a annoncé que la Russie aura une croissance économique beaucoup plus élevée que celle des pays qui lui ont imposé des sanctions. Comment comprendre cela ? Ça ne tombe pas du ciel. Il suffit de lire un peu les documents stratégiques russes pour comprendre qu'eux ont compris l'importance de ressources qu'ils ont. Et quand vous apprenez en plus, parce que je suis en train d'écrire un livre sur l'Ukraine, quand vous apprenez que Vladimir Poutine, sa thèse de doctorat portait sur le rôle de l'énergie dans la montée de la puissance russe, vous comprenez tout. C'est-à-dire qu'il y a une vision toujours derrière toute une politique de gouvernance. Et c'est ce qui fait défaut aujourd'hui dans notre pays. On peut avoir tous les minerais du monde, on peut être la RDC avec ses ressources stratégiques, tant qu'il n'y aura pas de vision autour de laquelle va s'articuler des projets, des stratégies du développement, on n'aura rien. La preuve en est que le monde dépend de notre coltan. Le monde dépend de nos ressources stratégiques, mais nous n'en bénéficions pas. Mais des pays qui ont le pétrole, qui ont le gaz, sont en train de montrer aujourd'hui que avoir de ressources stratégiques, c'est être déjà une puissance en devenir. Encore faut-il savoir comment s'en servir dans le chiquier mondial qui est le nôtre aujourd'hui.
Merci, merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Madame Aimé Magnong, Monsieur Willy Kalenga et Monsieur Patrick Mbeko. Merci aussi à Pierre Diassinois, qui était la technique avec la participation d'Hervé Voka et de Debs Vita sous la supervision d'Alex Essomé et de Martin Sebujangwe. À la présentation, Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Sadou de Franco Luambo Makiadi. Une façon pour nous de continuer à lui rendre hommage. Sadou est sorti en 1988 dans l'orchestre Okejazz. Et on se retrouve le samedi prochain.
Bate la bolingo la biso, bate la mondenga. tormenta que espanto. Bate la maquila na angai, bate la bolingo na biso, bate la mondenge tobeta kisadu. Bate la maquila na angai, bate la